va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Comptez.
Bien, ma belle, bien. Celle-ci, elle a fait plus de 9000 kilos. Elle est très laitière. Donc pour la fabrication du comté, c'est bien. C'est une très très bonne vache.
Comté. Pour prendre du goût, le comté prend son temps. Comté.
Et oui, le comté ne compte pas son temps pour devenir comté. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct avec du comté. Le comté, premier fromage d'appellation d'origine protégée de France. 62 000 tonnes de comté l'an dernier tout de même. Et peut-être bien aussi le premier fromage ou l'un des premiers dans le cœur des Français. Sa cote d'amour ne faiblit pas et on va essayer de comprendre pourquoi. Lénora Krief, bonjour.
Bonjour François Régiste.
Vous êtes allé chercher une partie de ses réponses.
Et oui,
sur
le
terrain.
Tout à fait. De la récolte du lait à l'affinage, je vous propose un petit tour d'horizon de la production de comté dans le massif jurassien.
En Franche-Comté, évidemment. Également avec nous, deux invités pour nous expliquer ce fabuleux fromage. Claude Vermeaux-Desroches, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du très puissant comité interprofessionnel du comté. Impliquez-vous-même dans la filière d'ailleurs, hein, en tant que producteur de comté, c'est bien
exactement.
Cela. Quel cahier des charges pour ce fromage? Comment évolue-t-il? Peut-on associer quantité et qualité? Pourquoi le comté est-il aussi distribué en libre-service dans les grandes surfaces? Vous allez répondre à quelques-unes de ces questions qui intéressent bon nombre de nos auditeurs. Avec nous également un autre invité, Emmanuel Perraudin, bonjour.
Bonjour François.
Vous vous définissez comme chef nomade, c'est ça?
C'est exactement ça.
Même si vos racines sont quand même pas mal dans le Jura.
Elles sont avant tout dans le Jura.
Dans votre famille, il y a même des restaurateurs, des producteurs de comté, on pouvait quand même pas tomber mieux. Et en plus, vous venez de signer un joli petit bouquin, Le comté, 10 façons de le préparer, dans la fameuse collection aux éditions de L'Épure. Bonjour à Sabine Buquet qui s'en occupe et qui nous écoute régulièrement. Vous nous avez préparé quelques accords qui vont nous défriser les papilles. Ça, si on en juge par les gestes dans la préparation de l'émission, j'avoue qu'il est question d'huîtres, d'oursins, vous allez être assez étonnés. Il revient tout juste du Jura, c'est ce qui s'appelle un vrai journaliste, qui écrit ses chroniques autour du vin à l'épreuve du terrain, c'est Antoine Gerbel. Bonjour Antoine.
Bonjour François Agis.
Alors, figure imposée aujourd'hui?
Oh, figure de bonheur, là, je me trompe dans mes deux passions, le fromage et le vin jaune.
Et le vin jaune, évidemment, il y en a plein, des bouteilles sur le... Je vous dis pas les parfums d'ailleurs, hein, dans le studio dont on va déguster en ce dimanche matin. À la réalisation, Laurent Thomas avec Sacha Trop, Nadia Chougui et Laure Grand-Besançon pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale, franceinter.fr à la page on va déguster, pour vous abonner au podcast de l'émission et pour avoir aussi toutes nos infos et les recettes de notre invité Emmanuel Perraudin. Adressez-nous vos questions, je suis sûr qu'il y en a à la maison sur le comté parce que c'est un fromage populaire. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou un tweet avec le hashtag on va déguster, nous répondrons en direct à vos questions.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Avant de rejoindre les pâturages de la Franche-Comté, petite escale dans les rues de Taïwan pour mon adresse de la semaine. Ou plus exactement, allez, j'ai fait un petit raccourci. Dans une rue parisienne, la rue du Croissant, dans le 2e arrondissement en l'occurrence, où l'on déguste de la cuisine de rue à la mode taïwanaise. Il existe, vous le savez peut-être, sur l'île de Taïwan, au large de la Chine, un snack, un petit anka, vraiment délicieux, qu'on dévore donc à Taipei et d'ailleurs dans toute l'île. Ça s'appelle le gua bao. G-U-A, plus loin, bao, B-A-O. Ça vous dit quelque chose ou pas? Autour de ce plateau? Non, personne n'est allé à Taïwan? Ah, j'aime vous faire découvrir des choses. Eh bien, c'est un genre de petit sandwich composé d'un pain cuit à la vapeur. Ce pain cuit à la vapeur qui prend la forme d'une galette un peu boursouflée et pliée en deux et garnie de poitrine de porc braisée. Et il y a une nouvelle adresse parisienne qui s'appelle Kwai qui propose justement cet anka vraiment dans les règles de l'art. Le pain à la vapeur est bien moelleux. Il est évidemment fait maison. Et chose un peu nouvelle qui peut parfois distinguer cette adresse de certaines adresses de snacks asiatiques, c'est qu'il est fait vraiment avec de la farine biologique, on sait un peu plus d'où viennent évidemment les produits. La poitrine de porc de qualité est cuite comme à Taïwan, c'est-à-dire qu'elle est marinée et ensuite elle est confite quand même pendant très longtemps dans une sauce un peu aigre-douce. Ça dure 24 heures et c'est à basse température et ça donne un moelleux aigre doux sous le palais, qui est vraiment vraiment splendide. Et en plus du moelleux, ce qui fait le relief de ce guat bao, ce petit sandwich d'un pain à la vapeur, ce sont les légumes croquants façon pickles qu'il y a à l'intérieur, et notamment les cacahuètes concassées. Kwai propose également des variantes du guat bao. J'ai goûté une recette au canard laqué, il y a une recette aux œufs, mais sincèrement, commencez vraiment par le guat bao. Poitrine de porc marinée, braisée. Emmanuel Perronin, vous y allez, vous m'en direz des nouvelles, d'autant que c'est une expérience qui coûte pas très cher. Les baos sont entre 6 et 7,50 €, et quand on veut ajouter un petit dessert, il y a également des nouilles, etc., on s'en sort pour une quinzaine d'euros. Le petit bémol, car il faut bien un bémol, c'est que il y a pas mal de monde et on attend un peu. Voilà, le principe d'un snack, c'est qu'en général, on l'attrape, on le mange dans la rue quand on est un peu pressé. Là, on poirote légèrement pour ce guat bao, mais ça se passe chez Kwai, cette nouvelle adresse à Paris, 17 rue du Croissant Paris 2e. C'est fermé le dimanche, mais ça réouvre dès demain, lundi. Dans un instant, on vous offre le comté sur un plateau. Belle journée sur France Inter.
Tragic, probably 44 moons or more. And I don't want to count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. You know, we got no time for games.
I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic.
I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, damn, I'm always on the run. And I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah.
À l'heure du comté, je me retrouve envahi d'odeurs des tables au moment de la traite, pleine de lait chaud et frais. On ne guérit jamais vraiment de son enfance. À vrai dire, je n'en ai même pas envie. Je veux me souvenir longtemps de la table du petit matin de mes grands-parents, du café presque brûlé, du pain grillé, du comté et du parfum du foin à peine coupé. J'ai de la chance, cette mémoire est inscrite dans la palette aromatique de ce fromage. La bonne nouvelle, c'est que Emmanuel Perraudin, en plus de cuisiner le comté, sait cuisiner les mots, et plutôt de belle manière. On le voit dans ces mots écrits en préface de Le comté, 10 façons de le préparer, le petit bouquin que vous avez écrit aux éditions de l'Épure. Vous avez, Emmanuel Perraudin, une relation, comment dire, familiale, affective, avec le comté.
Oui, c'est mon architecture intérieure. Je suis né dedans, vraiment. C'est quelque chose qui me construit. C'est quelque chose qui est là, tous les jours avec moi, en fait.
Vous m'avez parlé, en préparant cette émission, de goût primordial.
Oui, c'est un goût primordial.
Au sens étymologique.
En fait, quand je doute parfois, quand mon palais doute, quand j'ai des doutes en cuisine, en fait, il y a deux choses. Je fais deux choses. La première chose, je me retourne vers Alain Chapelle et je recuisine une partie des recettes de...
Ce grand chef de Mionnet, trois étoiles, hein, dans l'Ain, fabuleux.
Et sinon, je vais vers le comté. Il y a ce côté à la fois.
À la chapelle ou le comté.
Eh oui. Mais on est dans, à peu près dans la même zone, hein, de toute façon.
Il y a
ce côté à la fois extrêmement rassurant et en même temps qui est toujours nouveau, qui renouvelle, qui permet de s'ouvrir l'esprit.
Vous évoquez dans ces mots la palette aromatique extrêmement complexe du comté. C'est sans doute ce qui fait la richesse de ce fromage emblématique. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aimiez particulièrement cette saison car vous aimiez le comté d'automne. Alors, pour peu qu'on sache qu'il y a des saisons pour déguster le comté, expliquez-nous ce que veut dire aimer le comté d'automne.
Alors, bon, j'ai peut-être été un peu rapide, je sais pas ce que dira Claude, mais moi ce que j'aime en fait, c'est les goûts torréfiés, les goûts de noisettes, les goûts de sous-bois. On sort en fait de la période lactique quand le comté est très jeune.
Oui.
Et on va rentrer dans un peu plus de maturation. On est encore dans des âges raisonnables. C'est des comtés qui ont en règle générale entre 12 et 13 mois, en ce moment en tout cas.
Parce que quand vous évoquez le comté d'automne, c'est le comté que vous mangez en automne aujourd'hui, mais qui a été fait l'automne dernier.
Exactement.
C'est ça, donc il y a 12 mois.
C'est ça, il y a cette concordance en plus qui est drôlement intéressante, justement. Il est produit l'année dernière et on a ce goût d'automne de toute façon. On le voit, la nature nous pousse même de toute façon à aller vers ce goût-là. Et on est comme ça dans une chambre d'écho.
Des embruns marins vont souffler jusqu'à vous, chers auditeurs, derrière votre poste, peut-être par force neuf, car on va commencer strong, comme disent les Anglais, on va commencer très fort, avec quelque chose d'un peu percutant, de même carrément décoiffant. Allez, une recette, un accord, preuve que le comté se mange, et on va le faire tout au long de cette émission, évidemment, brut, primitif, mais également de façon cuisinée, avec des accords qui peuvent être... surprenant.
Ouais, bon, on va commencer tout de suite par une huître. De toute façon, c'est extrêmement impératif.
Attendez, huître comté, c'est bien ça.
Oui, huître comté. La terre, la mer.
Vous savez qu'il y a un sacrilège, il paraît, non? Non, si, c'est possible. Fromage, fruits de mer, pas de problème.
Sans aucun problème.
Évidemment.
Aucun problème, justement, parce qu'il va y avoir, ce comté de la d'automne va justement apporter de la rondeur à l'huître. Et avec cette recette, en fait, on peut vraiment faire aimer les huîtres à des gens qui n'aiment pas l'huître parce que justement, on va apporter un peu de gras à l'iode, en fait. Et on va faire découvrir aux gens qui ne pensent ne pas aimer.
Oui.
Qu'ils aiment, en fait.
Il y a une victime consentante ou pas autour de ce plateau? Moi, je...
Nos regards se tournent, moi,
nos regards se tournent vers Lenora Krief. Alors, il y a le voisin Antoine Gerbel qui va en profiter, évidemment, mais expliquez à nos éditeurs ce que vous avez fait, là. Vous avez ouvert des huîtres.
J'ai ouvert des huîtres, déjà.
D'accord. Qu'on trouve pas beaucoup dans le Jura, mais c'est pas grave, justement,
non,
c'est ça,
non,
le...
Mais c'est un souvenir de l'histoire, puisque de toute façon, on trouve des fossiles d'huîtres, hein.
Vous avez raison.
Mais donc après un peu d'huile d'olive avec un rabis
dans l'huître,
oui, cru, une pointe, hein, une giclée, une zestée de citron vert ou de kombawa.
Oui.
Citron vert, hein, c'est bien aussi. Hein,
le kombawa, vous évoquez ce petit agrume boursouflé qu'on trouve beaucoup à la Réunion en Asie du Sud-Est.
Hein, exactement.
Qui donne des notes de citronnelle un peu.
Un hachis de noisettes et de noix.
Très bien.
Et puis on va apporter de la fraîcheur avec du vin qu'on a mis en siphon. Alors on l'a mis en siphon, c'est pas pour faire joli, hein, c'est juste parce que on va enlever le côté alcoolé du vin.
Oui.
Pour lui apporter de la fraîcheur.
Quel vin?
Alors là c'est un gris, mais ça aurait très bien pu être un vin jaune ou un vin du Jura.
D'accord.
Idéalement c'est un savagnin sous voile.
D'accord. Pareil, le siphon à chantilly, hein.
Oui c'est ça, un siphon à chantilly.
Alors. Pshht. Ah ouais. Oh là là.
Légèrement.
Elle commence à tourner de l'œil, Lenora. Voilà. Mais où est le comté dans cette histoire?
Et le comté est mis aussi avec un tout petit peu. On met un tout petit peu de comté. Il faut un tout petit peu haché. Il faut qu'il y ait de la matière malgré tout. On va chercher dans l'huître le goût de noisette.
C'est ça.
Et donc la noisette dans le comté, la noisette dans la noisette aussi dans ce vin-là.
Et la noisette dans le comté. Très bien. Alors voilà un très beau camailleux gustatif, aromatique. Ça va du côté ça vole du côté de Lenora. Lenora, elle va goûter.
Hop, merci.
Et voilà.
Allez.
Alors Lenora, allez, on se lance.
Ah, c'est moi.
Pendant ce temps-là, on va révéler les relations familiales de notre invité Emmanuel Perraudin, car je disais qu'une partie de votre famille était impliquée dans la filière. Vous avez même un frère qui est producteur.
Ah oui, mon frère continue d'être producteur. Oui, il a repris avec un de mes cousins une exploitation familiale.
Oui. Il s'appelle.
Il s'appelle Michel.
Michel.
Et je l'embrasse.
Alors, ça donne quoi cette huître? Huître, noisette, vin jaune en mousse.
Oui, voilà, comté. Le vin mousse. Alors, c'est effectivement. Ça déconne. Enfin, franchement, c'est de bon matin à 11h, mais c'est très bon et c'est très frais. Ouais, je ne sais pas si vous avez goûté François Rachis, mais
non,
je vous
mais
invite
je vais
à...
Pas, je vais pas tarder à goûter.
C'est les fêtes avant l'heure. Et ça... vous parliez de son frère.
Voilà.
Son frère que j'ai eu la chance de rencontrer. Je vous emmène dans une vallée sauvage et reculée de la petite montagne, sur la ferme du Vallon des Pies. C'est là que Nicolas Perrondin et son associé y élèvent un troupeau de Montbéliardes, une des deux races agréées par la Haussée Comté avec la cimentale française. La Montbéliarde avec son regard charmeur est célèbre pour ses taches de couleur rouge-marron dessinées sur sa robe blanche. On la reconnaît également à sa tête et ses membres qui restent la plupart du temps blancs. À cette période de l'année, eh bien, les vaches se baladent encore la journée dans les prairies et ce jusqu'aux premières gelées du début du mois de novembre. Nicolas Perrondin va nous expliquer avec enthousiasme et passion pourquoi, selon lui, habitude est la vache idéale.
Viens ma belle, viens. Viens là, viens. Alors il se trouve que c'est une des meilleures vaches du troupeau. Hein. En plus d'être très gentille, c'est vraiment une des meilleures vaches du troupeau. Elle correspond parfaitement aux standards de la race et à ce qu'on attend d'une vache.
À quel niveau justement?
Au niveau de la morphologie, elle est grande, elle est profonde. Donc elle a beaucoup de taille, de la profondeur de flanc. Il y a son flanc qui est très descendu. Ça va lui permettre d'ingérer énormément d'herbes et de fourrage, de foin. La mamelle, elle est très agréable à traire. C'est une vache très calme, elle tape pas. Elle ne boite jamais, elle a des super pattes, il n'y a pas besoin de lui tailler les pieds. C'est une vache très très solide, elle est très laitière. Celle-ci, elle a fait plus de 9000 kilos. Donc pour la fabrication du comté, c'est bien. C'est une très très bonne vache. J'aime traire mes vaches, j'aime aller les chercher en champ et j'aime les traire. C'est de la traite dans une salle de traite. Mais n'empêche que quand vous traillez une vache avec une trayeuse, il y a un rapport qui est là. Il faut leur parler ou non, mais il y a un contact qui se fait. Il faut nettoyer les trayons, tirer les premiers jets et ensuite les brancher. Ben, il y en a qui n'aiment pas faire ça. Je sais que j'ai des collègues qui n'aiment pas le faire. Moi, c'est ma passion. J'adore ça.
Qu'est-ce qu'elles ingurgitent, ces vaches, pour donner un si bon goût au comté?
Ben, là, en fait, vous voyez que les vaches, elles n'ont pas fait de tri. Elles ont mangé tout ce qu'il y avait. Et si vous baissez la tête, ben, vous vous rendez compte qu'on n'a pas que des graminées. On n'a pas que ce fameux régras. Et on n'a pas que ce fameux trèfle blanc, il y a aussi toutes ces autres plantes. Et alors là, ben, il y en a une carrielle. Là, vous voyez, on a de la pimprenelle. Là, on a du pissenlit. Ça, c'est un gaillet. Je pense par exemple à une légumineuse qui s'appelle le sainfoin. On a une parcelle, elle en est bourrée. Elle est belle, cette fleur. Elle est rose, elle a une forme de papillon. C'est magnifique. Et là, vous vous dites, ouais, ma vache va manger ça. Eh bien, ça, c'est beau. Par exemple, au printemps, vous avez... De l'ail sauvage.
De l'ail des ours?
Non, c'est pas de l'ail des ours. Ça ressemble à de la ciboulette. On en a énormément dans nos parcelles. Et alors là, pour le coup, oui, ça sent. Ça sent. Et vous sentez l'ail. Vous le sentez dans la salle de traite. Vous le sentez quand elle rumine. Et donc là, vous vous dites, ouais, effectivement, quoi, il va y avoir une incidence sur le comté.
Emmanuel Perrondin est votre frère.
Oui.
C'est intéressant de savoir si il vous commande le fromage de la coopérative pour ses propres préparations.
Alors, pour ces propres préparations, quelquefois, en tout cas, il y a une chose, c'est obligatoire. Quand il vient à la maison, je suis obligé d'avoir du comté. Et il repart toujours avec du comté de notre coopérative. J'avais été surpris il y a quelques années qu'il me demande du foin. Il m'a dit, j'aimerais faire une recette avec du foin. Est-ce que tu pourrais m'en mettre dans un sachet? Alors, j'avais été emmerdé. Le foin que j'avais lui proposé dans le moment n'était pas super à mon goût. Malgré tout, il était ravi. Je crois qu'il a fait quelque chose de très, très bien avec ça. Je pense qu'il aimerait être restaurateur ici. Voilà. Donc, le fait que j'y sois, c'est une espèce de point d'ancrage pour lui. Et il est très, très content de ça. Et si je peux le fournir en comté et en foin, c'est encore mieux. Voilà.
Les frères Perrondin, Emmanuel, cuistot de son état sur le plateau dont on va déguster. Et le frère dans ses pâturages. Alors, on a commis une petite erreur.
Oui, comme il y a trois Perrondin. En fait, c'était Michel Perrondin.
Absolument.
Voilà,
le frère d'Emmanuel.
Qui travaille avec Nicolas Perrondin et qui est le frère d'Emmanuel. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans les prénoms.
C'est ça. Nicolas, c'est votre cousin, du coup.
C'est exactement ça.
Mais celui qui parlait au micro, c'est bien Michel Perrondin. Et on peut dire
Michel.
Que c'est quand même un passionné incroyable.
Ah oui.
Il peut parler des vaches et de son fromage pendant des heures.
Juste, quelle est cette petite allusion qu'il faisait à cette recette à base de foin?
Alors ça, c'est un poisson que j'ai cuisiné au foin de la petite montagne, en fait. On apportait en fait une ampleur aromatique. L'idée, c'était de le lier aussi avec du comté. Mm-hmm. Et du coup, le foin était vraiment le bon liant.
C'est ça.
Parce que souvent, quand on écrit des recettes, en fait, quand on s'interroge sur un produit, il faut d'abord essayer d'imaginer à quoi nous fait penser ce produit.
C'est ça. Et bah écoutez, c'est là pour le coup, je serais curieux de goûter, mais ça doit être assez surprenant. Claude Vermeaux des Roches, on était à l'étape de la collecte, de la production de lait. Il faut bien comprendre que la production de lait est évidemment la première étape de la fabrication du comté, mais que l'organisation de la filière est un cas presque unique dans le paysage des fromages français. Expliquez-nous pourquoi.
Il faut bien retourner en arrière et voir que pour faire un comté, les animaux ne produisaient du lait que l'été. L'hiver, il y a de la neige, il n'y a pas d'herbe. Il fallait conserver ce lait. C'est de faire un gros fromage. Pour faire un gros fromage, il faut 400 litres de lait.
Oui.
400 litres de lait, s'il y a, on peut dire, il fallait 10, 20 ou 30 agriculteurs qui se mettent en commun pour réunir tout ça. Imaginons une
famille. Tout le monde avait quelques vaches, mais c'était des petites productions.
Une ou deux vaches. Et il y avait, c'était déjà pour nourrir la famille sur le moment.
Mm-hmm.
Donc, la nécessité de se mettre ensemble. Et c'est ainsi qu'est née la coopération en 1267, pas loin de chez moi, à Deservillers, est né le premier système coopératif. C'est des traces, il y en avait d'autres encore plus tôt, mais celui-ci, il est officiel. Et pour voir que dans cette région du massif Jura, du Jurassien, la coopération est née par obligation, la nécessité de se mettre ensemble.
Vous êtes en train de nous dire que le comté est forcément une aventure collective, solidaire. Ça veut dire que il ne peut pas exister de comté fermier, au sens presque administratif du terme fermier. C'est-à-dire que quand on parle de fromage fermier, c'est une unité, une exploitation où on récolte le lait, il est transformé au même endroit et la personne qui fait le fromage et qui récolte le lait, collecte le lait, c'est la même personne.
Exactement, on peut aujourd'hui, il y a des exploitations qui pourraient faire 2, 3, 4 comtés par jour. C'est interdit. Il faut obligatoirement un lait de mélange pour justement avoir cette hétérogénéité d'apport de lait, différents pâturages, différents animaux, différentes façons de le faire pour que l'alchimie de l'ensemble de mélange de ces laits fait un comté. C'est l'originalité.
Une meule de comté, je crois, si on a bien fait les comptes, qu'il y a 1,6 million de meules de comté qui sont produites chaque année. Chaque meule de comté est donc faite avec des laits issus de plusieurs troupeaux.
Exactement. Exactement.
D'accord. Voilà. Alors là, on est à l'étape de la collecte du lait, évidemment, et ensuite ça passe dans une unité de production qui porte un nom très particulier.
Ah oui, unité de production, c'est catastrophique. Hein. C'est les fameuses fruitières, l'endroit où fait fructifier le travail des hommes.
C'est d'ailleurs l'étymologie. C'est l'idée que c'est le fruit, on récolte le fruit.
Exactement, comme les fruitières viticoles d'ailleurs. Et c'est bien un terme très jurassien qu'on retrouve et qui a été remis au goût du jour. C'est vrai, je me souviens de mon enfance, on parlait de sociétés coopératives, de fromagerie, de chalets de fromagerie. Aujourd'hui, les 153 fruitières, c'est bien le nom consacré qui identifie bien, alors qu'on pourrait imaginer avoir que 3 ou 4 usines. Mais si on veut la diversité, il faut bien maintenir ces fruitières.
Antoine Gerben.
Il y a aussi des fruitières viticoles.
C'est
particularité franc-comtoise également. Exactement. Même principe, petite ou grande coopération.
Exactement.
Donc ça veut dire qu'il y a, il y a une mentalité, un esprit jurassien derrière ça, l'idée de se serrer les coudes, de travailler ensemble pour créer de la valeur.
Et exactement. Et d'ailleurs, on a des producteurs qui sont à la fois producteurs de lait dans une fruitière et producteurs viticoles dans la fruitière. Donc c'est quand même un cas particulier où les deux métiers, même s'ils ont tendance à se spécialiser, on a encore des producteurs qui sont dans les deux activités.
Combien de fruitières dans la région l'aire d'appellation comté?
Aujourd'hui 150, avec une moyenne de 4 millions de litres de lait. Ça, c'est pas, pour les auditeurs, ça ne va pas signifier grand-chose, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on parle d'entreprises qui ont des centaines de millions de litres de lait à l'année. Il y a des entreprises qui fabriquent en un jour ce que nous fabriquons, nous, en une année dans une fruitière.
Voilà. Bien sûr. Mmh. On va essayer de comprendre quand même le comté en termes de volume, c'est très important en France. Mmh. On va essayer de comprendre la réussite de ce fromage. Est-ce que d'ailleurs, la qualité et la quantité sont conciliables? C'est ce que l'on va voir au sein de votre appellation, car c'est une appellation d'origine protégée depuis...
Alors, déjà, elle est depuis 58, c'est et ça. Puis reconnue AOP depuis que l'ensemble de l'Europe a reconnu l'ensemble des cahiers des charges qui doit être de 98.
Et on se penchera dans un instant, d'ailleurs, sur les quelques principes importants de ce fameux cahier des charges, mais juste avant, la troisième étape de la fabrication du comté, on a parlé de la collecte du lait, la production du lait, on parle de la fabrication du fromage dans les fruitières, venons-en à un autre métier métier qui est aussi assuré par une autre partie de cette filière, c'est l'affinage, Lenora Krief.
L'affinage, oui. Et je vous emmène dans une célèbre cave, la cave, les caves Rivoire Jacquemin. Mm-hmm. Alors pour ceux qui n'ont jamais consommé de comté Rivoire et Jacquemin, le signe de la marque vous dit peut-être quelque chose. Sur le logo, on aperçoit un homme transportant sur le dos des meules de gruyère de comté. Mm-hmm. C'est ainsi qu'on appelait le comté à l'époque. Et ce colporteur est en fait l'ancêtre de Véronique Rivoire, qui a repris l'entreprise dans les années 90. C'est elle aujourd'hui qui gère cette immense cave qui compte près de 120 000 meules. Wow. Donc on peut le dire, un véritable musée de fromage. L'entreprise est installée depuis 1880, ça date dans le Jura à Montmoreau, près de Long-le-Saunier, mm-hmm. et travaille avec une vingtaine de fruitières du massif jurassien. Les caves sont vraiment très impressionnantes, et particulièrement la toute dernière, créée en 2013 avec une surface de 1800 m² et 8 mètres de haut. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Et la maturation des meules en cave froide peut aller de 4 mois à 3 ou 4 ans. Et lorsqu'ils arrivent des fruitières, on les pose directement sur des planches d'épicéa. À ce stade, on ne parle pas encore de comté, mais de fromage en blanc.
Voilà, donc quand les fromages arrivent des coopératives, on les pèse, on les marque au fer rouge, et ensuite on les rentre soit à l'étage du dessous, soit à cet étage-là, pour les mettre en condition de pré-affinage. Donc le pré-affinage, c'est la première étape de notre travail. Ça consiste à préparer le fromage à la fermentation qui va suivre, qui va lui donner sa pâte et son goût.
Elles sont assez immenses, hein, vos meules.
Oui, une meule de comté, ça fait en général dans les 40 kilos quand elle arrive. Et puis on va dire qu'elle aura perdu 10% de son poids au bout d'un an d'affinage et un peu plus au cours de son vieillissement lorsqu'elle va plus loin. Oui. Si vous avez été en fruitière avant, vous avez vu le fromager transformer le lait en caillé. Le caillé a été pressé, moulé. Et donc, on a ce qu'on appelle chez nous un fromage en blanc. Donc, un fromage avant affinage. On appelle ça fromage en blanc ou caillebotte. C'est pas encore un comté. On a l'assurance, quand le fromager a mis la plaque verte sur le fromage, que c'est bien du lait fabriqué, transformé, selon les règles de l'appellation d'origine. Mais on peut pas encore lui donner l'appellation d'origine parce qu'il va lui falloir au minimum un affinage de 4 mois.
Donc, il arrive quand même ici en cave avec sa forme définitive.
Voilà, il arrive avec sa forme définitive. Mais pas de croûtage. On va en voir quelques-uns dans les caves.
Donc là, on a les fromages en blanc qui vont aller de 4 mois d'affinage à plus ensuite.
Oui, là, on est dans une cave de pré-affinage, donc on a une température douce, hein, vous le sentez. Quand on le touche avec le pouce, vous voyez, il s'enfonce. Sur un fromage avec plusieurs mois d'affinage, vous ne pourrez pas faire ça. Et à ce moment-là, quand on sonne un fromage...
Sonner un fromage, c'est-à-dire...
Si on ne le sonde pas à ce stade d'affinage, on ne le sonde pas. On ne va pas le piquer pour ne pas le faire moisir à l'intérieur. On va juste, et Ludo va vous montrer ça, on va juste écouter son son et vous verrez que le son d'un jeune fromage est totalement différent du son d'un plus vieux plus tard. Là, vous allez avoir un son très... caoutchouteux un peu, rebondi, mat. Et quand on aura un fromage plus âgé tout à l'heure, le son sera beaucoup plus sec. Il faut avoir une bonne oreille.
Alors qu'est-ce que vous entendez là ?
Là, on entend que c'est un son sourd, uniforme. Donc on considère qu'il n'y a aucun défaut de pâte actuellement. Actuellement, on est bien d'accord.
Vous avez entendu, hein, François Régis, oui. Ce sont de vrais spécialistes du son.
Mais c'est incroyable, absolument, comme point commun avec tous nos techniciens et les techniciens qui nous entourent à France Inter. Les fromages sonnent dans la cave d'affinage Rivoire Jacquemin, c'est assez impressionnant. Hein. C'est j'imagine, un son, un bruit qui vous émeut. Claudia Monet-Roche, qui vous est familier.
C'est vraiment le travail de l'affineur. On pourrait imaginer faire ça avec des appareils qui mesurent l'état. Mais là, c'est une des obligations, c'est vraiment le savoir-faire.
Ce n'est pas que de la poésie, hein, c'est pas de la musique.
Non. Alors certains les écoutent chanter, les écoutent, c'est vrai, mais ces femmes, ces hommes qui passent leur vie dans les caves, ils connaissent tout ça. C'est vrai que je n'ai moins l'habitude qu'eux, mais ça me parle. Et quand on va découvrir nos fromages, puisque les producteurs vont suivre l'élevage de leur fromage. Ils passent du temps avec les chefs de cave pour écouter et regarder leur fromage.
Le marteau, vous avez essayé ou pas, Lénora ?
Alors non, j'ai pas pris le marteau sonde dans les mains.
Vous aviez le micro déjà.
Mais là, on entendait donc le son d'un fromage en blanc, mais vous allez constater la différence avec le son d'un fromage affiné.
Ah, on veut voir ça. Ou entendre.
Oh là là, c'est puissant déjà, hein, l'odeur là. Hein.
Donc vous voyez la peau du fromage, hein, son croûtage, Eh ben, on l'a déjà bien changé.
Ah, là, elle a bien bruni, là.
Il y a des mois de... Qu'est-ce que je lis ? Il est 21-06-2016.
Donc mais là, on est à combien de fromages ?
Le bloc en entier, on a 18 000 fromages ici.
C'est incroyable. Hein.
Le son, il sera déjà beaucoup plus sec.
Ah oui, là, on voit que le comté s'est bien raffermi.
Ouais, c'est un son beaucoup moins lourd, beaucoup moins sourd, tout simplement parce qu'il se diffuse plus vite dans la pâte, parce qu'il y a moins d'humidité. Donc on est toujours sur le même principe, la même technique, c'est qu'on essaye de déceler les différences de son, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on peut avoir une différence de son du fait d'une ouverture.
Vous allez me faire goûter un comté qui est affiné de...
C'est un juin 2016.
15 mois, quoi.
Ces fromages-là ont été fabriqués avec du lait d'herbage, tandis qu'à la période de fin novembre jusqu'à fin mars, c'est du lait de fourrage. Voilà. Avant, on associait fromage d'hiver, mauvais fromage, et c'est pas le cas. Les fromages sont différents, voilà.
Il y a cette couleur un petit peu plus jaune et plus tentante aux yeux. C'est ce qui donne l'envie d'acheter, hein, que la couleur plus pâle. Donc c'est un petit peu cette image qu'il faut qu'on corrige et qu'on donne la curiosité aux gens d'essayer de goûter un vieux comté d'hiver. C'est très très bon aussi.
Et vous en avez un que vous appréciez plus particulièrement ?
Alors je ne le dis jamais, j'ai effectivement mes préférés. Je ne le dis jamais parce que je ne veux pas influencer. Moi, mon but, c'est que chacun trouve son plaisir dans le fromage qu'il va choisir. Donc après, j'ai mes plaisirs et c'est jamais les mêmes parce que en été, j'aime bien un fromage plus jeune, plus léger, plus souple, voilà, qui va s'accompagner avec un temps où il fait très chaud et on mangera plus de crudités, par exemple. Et puis, mon goût préféré, c'est un peu ce que j'ai connu dans mon enfance, donc c'est pas facile toujours à retrouver. Après, chaque année, ça change, hein, puisque nos terroirs varient. Et puis, un vieux fromage de temps en temps avec un bon vin jaune, c'est quand même extraordinaire. Donc, voilà, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ça dépend des circonstances, en fait.
Vous avez le choix, en plus.
Oui, c'est ça. C'est la chance qu'on a, nous, oui. Effectivement.
L'affinage des meules de comté dans les caves d'affinage. Rivoire-Jacquemin, c'est bien ça, Léna ?
C'est bien ça.
Merci pour ce passionnant voyage sonore. On a du mal à se figurer, quand on consomme du comté au quotidien, l'importance du métier d'affineur. On se dit, il arrive... C'est le dernier maillon de la chaîne, mais enfin avant, il y a des gens qui ont produit du lait, qui ont fabriqué les meules. Et pourtant, vous m'avez dit, hein, vraiment, c'est essentiel. Claude Vermeaud-Desroches,
oui,
président de l'AOP.
Les trois maillons sont interdépendants et il faut qu'ils soient tous forts. Il ne faut pas de maillon faible. Et l'affineur, c'est celui qui va révéler le potentiel.
Ah.
Donc l'éleveur, il a fait du mieux qu'il pouvait. Là, le fromager, il dessine le fromage. Et pour transformer l'essai, si c'est une métaphore que je peux m'autoriser, c'est de pouvoir continuer ce travail. Et c'est lui qui va, avec son choix d'affinage, va pouvoir prévoir à quoi ce comté sera destiné.
C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est finalement le garant de tout ce qui s'est passé précédemment.
C'est lui qui va l'offrir au consommateur.
Le garant de la... qualité, de la valeur finale du produit.
Exactement.
Vous disiez ?
Je disais que c'est le comté, c'est un fromage qui décide en fait aussi quand il va choisir. Évidemment, il y a le travail de l'affineur qui le pousse jusqu'où il peut aller en fait. Il le fait grandir en fait. Il y a cette histoire de pacte en fait entre la nature et les hommes et les femmes qui travaillent autour de ce fromage. Mais c'est un même rapport autour de la cuisine. Mais c'est particulièrement présent ici. Le comté décide vraiment quand il va aller. Et l'affineur aide le comté à savoir quand il est prêt à être dégusté.
Par contre, dans un instant, c'est nous qui allons décider autour de ce plateau s'il est bon ou pas, ce fameux comté que vous nous avez apporté. Petite dégustation dans les règles, dans un instant, de trois comtés de stades d'affinage différents. Il va y avoir également des recettes d'Emmanuel Perraudin. Et puis quelques questions, éventuellement, qui fâchent un tout petit peu sur le comté. On s'en parle juste après. Camille, je ne mâche pas mes mots.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame ça m'émerve et tu le corps. Je ne mâche
La cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac. C'est signé Camille qui ajoute « Si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi ». Par contre, la chanson ne dit pas si elle aime le comté. Cette fameuse Camille, on sait qu'elle a les papilles assez affûtées. Aime-t-elle comté ? Ben, écoutez, on lui posera la question en tous les cas. Nous, on l'aime, c'est certain. Autour de ce plateau, on va même vous le prouver avec une dégustation par stade d'affinage. Alors, c'est vrai que le critère, et là je me tourne vers notre président de l'AOP, Claude Vermeaud-Desroches, un peu le critère absolu en ce moment, est-ce un snobisme ou pas, de la qualité d'un comté, c'est de mesurer son âge. On dit qu'il y a du comté jeune, du comté moins jeune, du comté vieux. Est-ce que on a le droit, raisonnablement, de se raccrocher à ce critère ?
Le consommateur a besoin de repères, mais oui. Je trouve que ces repères, c'est bien dommage. Le consommateur,
ils sont réducteurs ?
Oui, tout à fait. Il faut s'occuper de ses sens. Un comté, il faut déjà le regarder. On a des yeux, c'est pour ça. Voir sa croûte, voir sa couleur. Et après, se reporter, s'il est telle couleur, quand est-ce qu'il a été fait ? Donc c'est quand même important, après, de s'imaginer. J'ai un comté qui est une couleur ivoire, oui. Ça veut dire qu'il a été fait l'hiver. Ça veut dire que les animaux étaient à l'étable et mangeaient du foin.
Oui.
Alors que l'été, c'est des pâtes jaunes parce qu'il y a le carotène de l'herbe qui colore le fromage.
Mais la couleur n'est pas forcément un critère de qualité. On peut avoir des comtés pâles qui sont aromatiquement très flatteurs.
Exactement. Donc quand on l'a vu, après, il faut le sentir ce fromage. Mm-hmm. On a un odorat, c'est pour ça. Et là, il va nous enseigner déjà ce qu'il a, ce qu'il dégage comme odeur. Et après, c'est de le mettre en bouche. Et là, c'est la capacité à se répartir dans toute la bouche. Et on est envahi des arômes. Si on n'est pas envahi, c'est que le comté, il n'est pas terrible. Et puis, si on est envahi, et après, c'est comment, quels arômes. Et ce n'est pas des choses très sophistiquées. C'est comment il nous parle. Chacun a ses critères.
Non seulement le comté sonne, mais en plus, il parle. Mais écoutez, ça fait beaucoup pour un fromage.
Exactement. Mais il est vivant.
On va le goûter autour de ce plateau. Nous avons 3 échantillons. Vous avez fait les choses méthodiquement. Merci beaucoup, monsieur le président. 3 échantillons. On décèle évidemment des couleurs différentes, des aspects de croûte également différents. Ouh là là, Emmanuel Perraudin commence fort, vous cassez le fromage sous le nez.
Il faut casser le fromage sous le nez. Sur le deuxième nez, pas tout de suite. Il faut d'abord le passer légèrement sous le nez, ensuite on le casse sous le nez.
Et là vous libérez les molécules aromatiques, c'est ça, ouais, hein, pour dire les choses de façon un peu snob.
Exactement.
Très bien. 3 affinages.
Oui.
Le premier. Commençons par le premier qui est un petit peu plus clair, visiblement un peu plus souple en texture.
Oui, exactement.
C'est le plus jeune.
Il est très jeune, ce fromage. Il est très jeune. C'est un tout jeune. C'est presque un bébé, un adolescent. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un fromage qui a des arômes, tout ça, aussi bien en odeur que tout de suite quand on va le mettre en bouche, avec des goûts lactiques. Ça fait penser à des produits laitiers, comme des yaourts. Et puis, cette odeur de vanille, il va tout de suite venir et rester dans la bouche. Mm-hmm. Elle va rester, cette odeur.
C'est vrai.
Emmanuel, on est à bonne température de dégustation aussi. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir.
On est très chambré, très température ambiante.
Il fait
un peu chaud dans ce studio. Oui, tout le monde est en t-shirt.
Oui, mais il y a un bon rapport, en fait. Là, le comté arrive à bonne température. Idéalement, comme à 20, en fait. Chambré.
Quel âge ?
Ben ça, c'est
ah oui, 9 mois.
C'est un fromage qui a 9 mois. Donc un
l'âge minimum du comté.
Alors c'est 4 mois, mais bon, il s'en consomme pas à 4 mois.
D'accord.
C'est vraiment dommage.
Mais 9 mois, on sent déjà un vrai beau potentiel aromatique.
Oui.
Une texture un peu
souple. Il peut encore évoluer ce comté, mais il libère déjà des choses. Il peut vieillir, mais beaucoup l'aiment à cet âge-là.
Et oui, et nous les premiers. Deuxième stade d'affinage. Alors là, on monte un petit peu en vieillissement.
Voilà. Déjà, on voit la coupe jaune. Eh bien, c'est Emmanuel nous invitait. Et il nous parlait de son faible pour les saveurs d'automne. Nous sommes dans les saveurs d'automne, en septembre 2016.
Ouais.
Donc on a encore l'herbe. On a encore pas les pluies d'automne quand même. Mais
on a des notes assez animales.
Pas encore, je trouve, mais. Bon, mais à la limite, si ça...
Il y a un début de cuir.
J'avais l'impression de le penser aussi, mais de le dire.
Léger, mais on a bien sûr des notes végétales qui restent quand même. Et c'est une des signatures de ma fruitière. C'est des notes quand même assez végétales.
Est-ce que...
Mais ce goût de noisette, amande, noyau, il est bien là.
On arrive à quel âge là? On est donc
entre 13 mois.
13 donc, mois, ça veut dire que si je fais les calculs, c'est septembre 2016.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc il y a une grosse année.
Ça reste dans l'univers des fromages,
un l'été.
Fromage qui est considéré comme jeune, mais qui a une capacité de libérer beaucoup d'arômes.
Il est trop bon.
Est-ce que c'est vrai que les arômes se concentrent beaucoup? D'ailleurs, on sent que ça fonce un peu en termes de couleur. Plus on s'approche de la croûte,
c'est vrai que
plus c'est flatteur hein, en termes de.
Oui, bien sûr.
De potentiel,
c'est pour ça
de goût.
Moi, je ne mange pas la croûte. Certains la mangent, mais il faut juste la racler, la croûte. Mais
comment ça, vous ne mangez pas la croûte?
Mais la croûte, mais c'est une habitude hein, personnelle.
Bon,
certains sont amateurs de croûte, mais je fais que de la râper pour bien manger ce qu'il y a juste derrière.
Très bien. Et là, on a vu qu'on était monté un petit peu en couleur également. On est un peu plus dans les jaunes, un peu plus soutenus. Lénora?
Oui, non, je me demandais, parce que c'est les comtés qu'on goûte, ils n'ont pas de cristaux. Alors, est-ce que les cristaux, c'est un signe de qualité, de vieillissement?
C'est un indicateur de vieillissement, tout à fait. On va, je vous invite à ce moment-là à prendre le troisième. Exactement.
Ah, alors, attendez.
Des spécialistes autour de la
table. Là, il y a du très haut niveau autour de ce plateau, oui, car souvent, on pense, lorsqu'on a ces petits cristaux qui craquent sous la langue, et là, c'est en général le trait caractéristique de meule un peu plus poussée en affinage.
Oui.
Ce n'est pas du sel, on le répète, on le dit, on le redit.
Oui, surtout que le comté est le fromage, un des fromages moins salés. C'est, déjà, oui, quand on le regarde, ce comté...
Là, vous parlez du troisième, hein?
Du troisième, effectivement,
et là, on est...
qui est au printemps. Les animaux, allez...
Printemps quel âge, pour qu'on y voit clair?
Eh bien, c'est 19 mois.
19 mois, donc
18 mois, 19 mois.
Il a été fabriqué au printemps 2016.
Voilà, et je suis assez surprise, là, parce que je me rappelais, les animaux, il pleuvait beaucoup, ils avaient du mal à aller au champ. Malgré tout, ils avaient suffisamment d'herbe pour colorer le lait. Et c'est une belle surprise de voir ce fromage aussi jaune, alors qu'on s'attendait à avoir des pâtes blanches.
Ça s'appelle l'effet millésime.
Eh bien, oui. Alors, vous voyez, effectivement, alors on a une pâte encore qui est tout à fait souple, hein, celle-ci. Mais là, on est déjà sur des notes de fruits exotiques. Alors,
ça dépote, hein.
On parlait de la tyrosine, effectivement. Alors, ces cristaux, ils ne crissent pas sous la dent. Ils sont encore, ils commencent à se former. Ils sont pas très durs.
Pardon, tyrosine, c'est un mot. Alors, on parle d'acides aminés.
Les acides aminés qui se cristallisent, c'est un phénomène normal pendant que le fromage se mature, ça vit, puisque ça vit un fromage. C'est ce qu'on appelle le système de protéolyse. Les acides aminés s'agglutinent entre elles et deviennent de plus en plus durs. Et ces fameux grains de sel, ce ne sont pas effectivement des grains de sel, ce sont des acides aminés.
C'est donc de la tyrosine, comme le disait l'érudit Antoine Gerbel.
C'est pour ça qu'elle apparaît à partir, certains fromages à partir de 14 mois, c'est surprenant, mais à partir de 15, 16 mois, 18 mois, et pour avoir que ça crisse sous la dent, c'est à partir de 18 mois. Je suis surpris de ne pas les sentir sous la dent.
On s'arrête à 18 mois, on va peut-être aller un peu au-delà. Est-ce que vous combattez un peu cette habitude ou ce goût pour les comtés très très poussés en âge? Est-ce qu'à un moment donné, à un âge de sa vie, c'est comme tout, nous autres aussi, on décline un peu en termes de goût?
Je pense que il y a des comtés formidables qui vieillissent très bien.
Jusqu'à quel âge?
C'est des vrais bonheurs. Eh ben, des 36 mois, des 48 mois, j'en ai déjà goûté, ça reste exceptionnel. Et puis, on perd sans doute en diversité aromatique, en puissance. C'est vraiment des fromages destinés pour des personnes très initiées et surtout pour faire des plats et amener toutes les valeurs du comté. Très honnêtement, il y a des fromages, c'est presque dommage de les manger comme ça, sans rien. Donc, ça reste pour des très initiés, mais surtout, goûtons les fromages, mais ne parlons pas toujours que de moi.
Dans un instant, on retrouve une petite recette d'Emmanuel Perraudin avec un comté dont on ignore l'affinage d'ailleurs, vous nous le direz. Mais tout de suite, accompagner justement le comté et surtout dans le verre, c'est l'histoire et l'affaire d'Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Antoine, à vous de jouer.
Alors moi, je suis parti à la poursuite d'Octobre jaune. Et oui, cette saison, elle est magnifique. J'ai encore les yeux éblouis par ces ocres, ces jaunes, ces nuances
de la
magnifique campagne franc-comtoise. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà, je ne suis pas franc-comtois, mais je tombe amoureux systématiquement que chaque fois que je traverse cette région. Et cette région, elle est bien évidemment portée par le comté, on vient d'en parler, mais portée aussi par des vins. Un vignoble en pleine forme, tout petit vignoble, 2000 hectares, le Jura, c'est rien du tout comparé aux 90 000 de Bordeaux, aux 30 000 même de la Champagne. Mais un vignoble en pleine forme, parce qu'un vignoble qui a gardé ses racines. Tout ce que j'ai entendu à propos du comté, j'aurais pu le transposer sur le vin. On a vraiment cette identité très forte. D'abord, on a les cépages, Savagnin, Trousseau, Poulsard, et puis on a les modes d'élaboration. Et là, moi, je vais m'arrêter simplement sur cette chronique sur le vin jaune, parce que ce vin jaune, il est déjà plein d'a priori. Je croise trop souvent des gens qui en ont peut-être bu du mauvais ou au mauvais moment et qui définitivement me parle de vin cuit, de vin d'apéritif, enfin tout ce qui n'est absolument pas le vin jaune. Le vin jaune, allez, on essaye de faire très court. Le vin jaune, c'est un vin qui est issu de Savagnin, vin blanc uniquement, qui est élevé dans un fût pendant 6 ans et 3 mois. Je expliquerai pourquoi. Mais pendant ces 6 ans et 3 mois, le fût n'est jamais houillé. C'est-à-dire qu'on ne rajoute jamais du vin à l'intérieur du tonneau. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une évaporation. En cognac, on parle de la part des anges. Là, c'est une évaporation dans les caves très particulières, elles sont pas comme les caves de Bourgogne ou d'ailleurs, elles sont sèches les caves. Il faut pas de cave humide pour que le phénomène d'évaporation fonctionne très bien. Et donc en gros, vous prenez un litre de vin de Savagnin, vous le laissez pendant 6 ans et 3 mois et vous obtenez 62 centilitres. 62 centilitres, c'est exactement le contenant de cette très jolie bouteille dans lequel est contenu tous les vins jaunes, ça s'appelle clavelin, et c'est pour ça qu'il y a cette signature. C'est une vieille histoire, on pourrait faire des heures et des heures sur les vins jaunes. Le vin jaune, par contre, il se décline en quatre appellations dans le Jura. Il y a la plus importante, c'est l'Arbois, après il y a le Côte du Jura, et après deux petites spécialités, l'Étoile, tout petit piton rocheux avec une roche calcaire qui tire son nom, puisque c'est des fossiles étoilés, et puis le fameux Château Chalon, qui est le méga grand cru, une quarantaine d'hectares, où on a des très très vieilles familles qui sont là, on a ça comme l'ancien régime est presque de l'ère moderne pour eux, où on a l'habitude de sortir des années 40,
on a porté une bouteille,
de sortir les années 40, comme dire, il est encore un peu jeune, faites un peu attention, avec cet accent que je n'oserais pas imiter. Donc, ce qui est passionnant avec le vin jaune, c'est que on a cette adéquation. Il y a une famille, une déclinaison. Là, je vous ai amené les jeunes. Donc, les jeunes, c'est 2010, bientôt 2011, je parlerai plus tard. Mais 2010, avec Badoz, moi j'adore, c'est Benoît Badoz, un jeune vigneron qui reprenait à son père, qui passe en bio, hop, on ouvre une petite parenthèse. Le Jura, et après la Provence, le deuxième vignoble bio de France. Et allez pas nous raconter que parce que c'est continental, qu'il pleut souvent, on peut pas faire bio. Fermons la parenthèse.
Ben voilà, dans le Jura, pourtant, il y a un peu de pluie, évidemment.
Bien évidemment, c'est difficile, c'est juste une histoire
une
volonté humaine et envie de bien travailler. Après, nous avons je vous ai amené le château l'Étoile de Philippe Vandel avec deux aleux. Désolé Philippe, si tu nous entends, le chroniqueur, bien évidemment.
Notre confrère.
Après, vous avez autre chose, ça c'est très intéressant, c'est que on me dit, oui mais les vins jaunes, les bons vins jaunes, ils sont chers maintenant. Il faut mettre au moins 40-60 euros. C'est vrai qu'il y a quelques stars. Mais là, je cite Jacques Tissot, un gros domaine, et qui travaille bien et de plus en plus précis. Et ça coûte seulement 25 euros. Donc c'est voilà le vin jaune d'initiation.
Après, seulement, ça reste une bouteille,
Imaginez un produit avec 6 ans et 3 mois, 25 euros, tout le travail qui est fait derrière.
C'est le juste prix.
Non, vraiment, ils ne comptent pas leurs heures. Et puis après, deux spécialités. le château Chalon, d'une grande domaine qui s'appelle Berthe et Bondec, magnifique, en 2005. Ça commence tout juste à s'ouvrir. Et puis le 2001, j'adore Pascal Clairet, donc ça c'est son vin jaune. Là c'est la tendance nature, c'est le domaine des tournelles. Et là, vous voyez, j'ai ouvert les bouteilles sur le plateau. On se régalera presque dans 24 heures. Parce que ce sont des vins qui ont besoin d'air. Ce sont des vins qui, la bouteille ouverte peut rester un mois dans la porte du frigo sans aucun souci. Pas plus d'un mois, attention, c'est pas le vieux Porto de la mamie qu'on oubliait dans le buffet. Non, non, un mois c'est bien, mais ça décline. Alors, on parle rapidement des arômes. On est bien évidemment dans la noix, le meilleur raccord le plus simple. Un morceau de comté, les noix et un verre de vin jaune. Voilà, on commence par là. Je ne les ai pas encore récoltés. Moi, j'ai deux écureuils dans mon jardin qui s'en occupent malheureusement avant moi. Et puis après, bien évidemment, les notes subtiles et mondialisées, entre guillemets, du curry. Aujourd'hui, le curry est partout. Et c'est le vin qu'il faut placer sur les currys, les currys indiens. Après, toute la déclinaison des herbes asiatiques fonctionne très, très bien. Et c'est ça qui est magique avec le Jura. C'est que cette espèce de piton où il faut monter, où quand il y avait de la neige et du froid, personne venait. Ils étaient isolés. Et aujourd'hui, rayonnent dans le monde entier. Pour moi, le Jura est fait, quand vous parlez du Jura, des Japonais ou des Américains fous de vin, ils ont les yeux qui brillent. Quand vous citez Pierre Auvernois, qui est un vigneron extraordinaire.
Et Emmanuel Houillon.
Bien évidemment, qui est son fils adoptif, qui reprend le domaine, qui fait aujourd'hui un travail énorme. Mais voilà, pour moi, le Jura, encore une fois, c'est peut-être cette France, vraiment cette très grande France qui travaille, qui a des appellations. On a le comté, on a le vin jaune, et dont on peut être vraiment très, très fier.
Quelle déclaration d'amour. Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup, Antoine Gerbel, pour cette belle page autour des vins jaunes. Il nous reste vraiment quelques minutes. Ouh là là, on a carrément débordé dans notre programme. Il y a des questions qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Une petite recette avec Emmanuel Perraudin, en quelques gestes. Là aussi, pour surprendre nos papilles avec du comté, vous nous proposeriez quoi?
Alors, rapidement, une betterave qu'on a confit un peu au four.
Belle idée.
On rajoute des oursins, évidemment.
Betterave oursin?
Oui, parce qu'en fait, le comté va vraiment...
Très terreux et très iodé.
Oui, très très iodé.
Enfin, salin. On va dire, le iodé, c'est bon.
Mais parce qu'en plus, avec le vin jaune, là, c'est juste, je viens de regoûter, là, celui dont vous parliez, là, tout à l'heure, de chez Tissot, là, ça marche vraiment trop bien. Un comté d'automne, donc celui dont on parle, celui de Clotet. C'est vraiment très, très bien.
Oui.
Et puis, par-dessus, on parsème une petite poudre de cèpe séchée, un peu de sucre brun. La panela, ce serait idéal, c'est un sucre sud-américain.
Waouh!
Parce que c'est un sucre brut, mais qui n'a pas de note de vulgarité. Et voilà.
Donc betterave, oursin,
oui.
comté
et j'ai oublié une vinaigrette au whisky, légèrement tourbée.
Whisky
tourbé. Ça a l'air compliqué, d'accord. Mais en fait on est toujours dans la même conjonction.
On a le droit de goûter ou pas?
Oui, il faut goûter.
Alors Antoine,
c'est délicieux. Mais d'ailleurs on peut la vinaigrette au whisky, c'est une superbe idée parce que un whisky tourbé peut être un très bon accord avec un vieux comté.
Ah oui.
Claude Vermeau-Desroches, on finit plutôt par quelques questions un peu qui interpellent évidemment nos auditeurs. Dans le comté, on l'a dit, production extrêmement massive, pour autant vous conservez un cahier des charges rigoureux, notamment on l'a dit sur les vaches laitières, il y a des races en particulier, vous êtes beaucoup moins permissifs que plein d'autres AOP en France, 1 hectare d'herbage par vache, etc. Quelques industriels dans l'appellation. Comment concilier qualité, quantité? Comment cantonner aussi les Lactalis, les Sodiales qui occupent 37% de l'appellation de la filière sans les faire dériver vers un cahier des charges, on va dire, un peu plus assoupli, qui nuirait à la qualité du produit final?
Alors déjà, l'atout, c'est que les producteurs sont pas producteurs de lait à la merci d'une entreprise qui veut bien leur acheter leur lait. Ils sont producteurs de fromage autour de leur fruitière. Donc c'est déjà eux qui décident et c'est de eux qui codifient la façon dont on travaille, de la façon dont on fabrique le comté. Après, c'est ce travail en interprofession que je représente, où les gens sont tous autour de la table. Et c'est aussi des décisions à l'unanimité des collèges, c'est-à-dire que le plus petit producteur de fromage ou le plus gros, vous avez cité quelques grosses entreprises nationales, n'ont pas plus de pouvoir. Donc c'est la nécessité de s'écouter, la nécessité de prendre en compte la vision de l'autre, et c'est ce travail collectif qui fait que l'AOP, comme on dit chez nous, n'est pas galvaudé. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire des progrès, et la filière réfléchit à renforcer l'ensemble de son cahier des charges pour répondre à ses attentes.
Oui, car vous auriez plutôt tendance à le renforcer, le cahier des charges.
Absolument.
Absolument. C'est ça qui est intéressant.
Et je pense que ça serait une folie de ne pas le faire. Il y a une demande de la société, des produits plus naturels, de bien prendre en compte l'environnement, de faire plaisir aux consommateurs. C'est sur ces thèmes-là qu'on travaille actuellement.
On est obligé de se quitter malheureusement. On aurait aimé vous poser bien d'autres questions, notamment sur le Comté bio et compagnie, mais vous reviendrez, c'est promis. Merci à tous les deux, Emmanuel Perraudin, Claude Vermeaux-Desroches. Au revoir Lénora Krief. Au revoir Antoine Gerbel, à la semaine prochaine et à dimanche prochain si vous avez encore faim.